Bonjour, bienvenue à Point de vue, Boris Chassagne qui vous accompagne pour cette prochaine demi-heure. Au sommaire de cette édition, une autre figure de proue du paysage musical acadien disparaît. Pastel Leblanc, chanteuse instrumentiste du groupe musical Vichten, meurt à l'âge de 42 ans. Pastel Leblanc était une grande ambassadrice de la culture acadienne.
Quand on entend Pastel jouer, on sait que c'est Pastel. Elle a son style, elle a sa voix. Même quand elle faisait des arrangements, on savait que c'était un arrangement. Pastel, c'était vif, joyeux, c'était aussi profond. C'était vraiment quelqu'un qui était respecté à travers le monde. Hein.
Au Québec, une nouvelle ligne de transmission hydroélectrique longue de 75 km est mise en service entre La Romaine et Pointe-Parent. Ceci permet d'économiser 4 millions de litres de diesel par année.
On a construit ça avec des emprises qui ont été déboisées suffisamment larges, construit ça suffisamment haut. On a mis des équipements pour une résistance accrue au verglas.
Et on s'entretient avec notre reporter Judy Desalliers, qui est à Fredericton au Nouveau-Brunswick. Elle nous parle de la communauté qui l'a accueillie et de sa migration vers cette province canadienne.
J'ai découvert une province qui gentil. C'est comme ça que je peux décrire le Nouveau-Brunswick. Les gens sont gentils, sont accueillants.
Bienvenue à Point de vue. On effectue notre premier arrêt au Québec, où une nouvelle ligne de raccordement et de transport d'Hydro-Québec relie maintenant les communautés de Pointe-Parent et de La Romaine. Ça, c'est en Basse-Côte-Nord, à plus d'un jour de route et de bateau de Montréal. Mais ce qui peut sembler être une bonne nouvelle pour les citoyens de la région les inquiète, en fait. Eux qui, depuis la mise en service partielle de la ligne, ont été exposés à plusieurs coupures de courant et se demandent maintenant si le problème va se résorber. Pour vous situer, La Romaine, c'est tout en haut du Québec. Vous le devinez, il fait froid l'hiver et la région est très reculée. Quand on demande de l'aide, elle prend parfois du temps à arriver. La Romaine a son port, mais il n'est pas toujours accessible non plus. À la fin du mois de mars, la Société d'État Hydro-Québec a mis en service la nouvelle ligne de transport reliant donc Pointe-Parent aux collectivités d'Ounamène-Chipu et de La Romaine, dont l'alimentation en électricité dépendait jusque-là entièrement d'une centrale thermique au diesel. Les habitants de La Romaine s'inquiètent de la fiabilité de cette nouvelle ligne et Hydro-Québec tente en même temps de les rassurer. Pénélope Clermont en parle avec Danielle Collard, adjointe à la direction de la municipalité de la Côte-Nord du Golfe du Saint-Laurent et citoyenne de La Romaine, de même qu'avec Stéphane Dumaresque, porte-parole d'Hydro-Québec.
Ben, c'est perçu positivement parce que, je veux dire, ça innove, puis je veux dire, on n'aura plus ce problème d'approvisionnement d'hydrocarbures à cause de la météo et puis tout ça, parce qu'on a quand même un port difficile à atteindre en cas de mauvais temps. Puis les bateaux en hydrocarbures, ben, je veux dire, ils n'ont pas de risque à prendre. Donc, faut qu'il y ait une fenêtre assez longue parce que le déchargement de La Romaine, ça peut prendre au-dessus de 24 heures là, en ligne. Là. Ça fait qu'on aura positivement, on voit ça à cause de ce problème-là, parce qu'il y a 2 ans, on a failli plus avoir d'électricité pendant le temps des fêtes. Il y avait même fait des projections là, de secteurs qui allaient couper un par un là, tranquillement pour économiser le fuel. Par contre, moi, j'ai toujours habité à La Romaine, puis des pannes de courant, on n'a pas ça souvent, là. T'sais, nous autres, on peut expérimenter une panne de courant de 15 minutes en cas de grosse tempête, puis encore, là, tu sais, c'est plutôt la surcharge des moteurs qui faisait qu'on perdait le courant. Ben, avec la nouvelle ligne cette année, juste cet hiver, je pense qu'on a perdu le courant 6 fois.
OK, quand même.
Des périodes assez longues, là. Parce que là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une partie du village qui est déjà alimentée avec la nouvelle ligne. C'est-à-dire, les villages autochtones, ils sont déjà alimentés avec la ligne qui arrive de Natashquan. L'ancienne réserve, puis le village des Blancs, nous autres, on est encore sur la centrale là, au diesel. Ça fait que quand il y avait des pannes sur la ligne, bien, il y a une partie de la réserve qui perdait le courant. Ça fait que là, il fallait que la centrale les prenne en charge. Parce qu'ils ont gardé cette possibilité-là en attendant, pendant le rodage de la ligne. Mais pendant la prise en charge, des fois, il y avait des pépins parce que la ligne n'est pas encore, elle n'a pas encore tout le courant dessus pour alimenter le village en entier non plus. il y a des fuses qui sautaient, là, des breakers, je sais pas trop comment eux autres ils vont appeler ça, là, les gars d'hydro. Mais c'est ça. Fait qu'on t'sais, on a eu des on a quand même eu des grosses pannes.
C'était donc Danielle Collard, adjointe à la direction à la municipalité de la côte nord du golfe du Saint-Laurent et citoyenne de la Romaine, qui nous expliquait la perception de sa communauté sur la nouvelle ligne d'Hydro-Québec, de même que des inquiétudes que les citoyens ont par rapport à la fiabilité de celle-ci. Je me suis donc tournée vers Stéphane Dumaresque, porte-parole d'Hydro-Québec, pour voir si ses craintes sont fondées.
Notre ligne a été construite justement en prévision de ça. C'est-à-dire qu'on a fait une ligne, une structure ou des structures qui sont plus grosses que ce qu'on fait normalement pour un voltage similaire. Pourquoi? Parce que justement, on est dans un milieu qui est plus isolé. La route va arriver dans quelques années. On dégage très large. Il faut savoir que la majorité des bris qu'on a sur nos réseaux électriques, ça vient de la végétation qui va briser avec les vents, avec les tempêtes. Donc, on a construit ça avec des emprises qui ont été déboisées suffisamment larges. On a construit ça suffisamment haut. On a mis des équipements pour une résistance accrue au verglas. Évidemment, là, les gens de la Romaine ont eu des pannes cette année. Oui. Il y a eu une panne qui a eu lieu à la centrale, qui a pris un certain temps pour que, justement, on puisse réparer le tout. Cette année, là, c'est vraiment les tempêtes de neige, de verglas, les vents qui ont causé des problèmes. On a des travaux en maîtrise de végétation qui sont prévus dans ce secteur-là cette année et l'année prochaine.
Donc, les citoyens peuvent espérer pas revivre là, le même type d'expérience dans les années, les hivers à venir.
Oui, en effet. Okay. On va faire des travaux qui... Moi, je peux vous dire, par expérience, ont un gros impact. Je l'ai expérimenté moi-même chez moi, je peux vous dire ça.
En complément de l'extrait, M. Dumaresque m'expliquait que 3 centrales thermiques alimentaient les villages de la Basse-Côte-Nord avant 1995. Une de ces centrales a été démantelée, alors que 2 continuent d'être entretenues afin de pallier à un bris prolongé de la ligne d'alimentation. En ce qui a trait à la centrale de la Romaine, on prévoit la maintenir en service durant 1 an, puis la démanteler ensuite. On parle bien sûr de la centrale thermique. Le contexte ne nécessite pas qu'on la maintienne en service, au dire de M. Dumaresque. Enfin, pour revenir sur la nouvelle ligne d'Unamen-Chipou et de la Romaine, je me suis permis une dernière question auprès du porte-parole d'Hydro-Québec. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour entreprendre ces travaux alors que les autres communautés sont liées à une centrale hydraulique depuis plus de 25 ans? Voici sa réponse.
Il y a les coûts associés à la construction de la ligne qui ont fait qu'on a révisé les scénarios à quelques reprises pour s'assurer qu'on mette quelque chose qui est robuste. Lorsqu'on a commencé les travaux, bien oui, là, la centrale arrivait en fin de durée de vie. Donc, on l'a lancé à ce moment-là, mais il y a eu plusieurs analyses sur plusieurs années, plusieurs scénarios de type de ligne qui ont été évalués également. Vous savez, il y a des rivières qui sont très larges dans le secteur entre Kegaska et entre Pointe-Parent et la Romaine. Ça, c'est des portées qui demandent beaucoup de travail d'ingénierie. Il faut qu'on calcule comme il faut. L'accès en été, justement, dans ces zones-là, traverser ces rivières-là, on ne pouvait pas y aller. Il fallait le faire en hiver.
Oui. Vous
voyez, l'hiver dernier, on a eu un hiver tellement doux que le pont de glace, on était rendu en février, puis on se demandait si on allait pouvoir faire les travaux. Mais l'hiver dernier, c'était complexe. La COVID est venue nuire aussi. On ne pouvait pas... À un moment donné, le chantier a dû être arrêté. Quand on l'a repris, il fallait mettre en place des mesures assez complexes et il fallait aussi que nos mesures puissent ne pas mettre trop à mal la résilience des communautés parce qu'il y avait beaucoup de stress dans les communautés. Vous savez, on amenait du monde de l'extérieur. Ouais. C'est pas tout le temps du monde de la place qui pouvait travailler sur le chantier. Il fallait amener du monde de l'extérieur qui venait de zones rouges. Donc, il fallait pouvoir isoler tout ce bon monde-là. Donc, ça fait partie de toutes les difficultés qu'on a pu rencontrer sur ce projet-là.
La nouvelle ligne permettra d'économiser près de 4 millions de litres de diesel par année et l'équivalent d'environ 10 000 tonnes de gaz à effet de serre, ce qui équivaut à environ 2 500 voitures à essence sur nos routes, explique Hydro-Québec. L'appellation La Romaine dérive du vocable Innu Oloman ou Oroman, signifiant ocre rouge, ce qui fait allusion à la couleur rougeâtre des eaux de ruisselle du printemps. Plusieurs villages de la Basse-Côte-Nord ont depuis 1995 été connectés à une centrale hydroélectrique plutôt que thermique. Les communautés de La Romaine et Unamen-Chipou demeuraient seules bas-côtières à être encore alimentées par une centrale thermique au diesel. Tout le monde devrait être connecté au même réseau dès l'été 2022. Rappelons qu'Hydro-Québec exploite une vingtaine de centrales thermiques à travers la province afin d'alimenter en électricité les collectivités trop éloignées pour être accordées au réseau principal, si ces centrales représentent moins de 1 % de la production d'Hydro-Québec, elles sont responsables d'environ 43 % de ces émissions de gaz à effet de serre. 80 % du réseau thermique devrait être converti d'ici 2030, explique Hydro-Québec. La communauté artistique acadienne pleure le décès de Pastel Leblanc, chanteuse et instrumentiste du groupe musical Vichten. L'artiste originaire d'Évangéline à l'île du Prince-Édouard est récemment décédé à l'âge de 42 ans seulement. Vichten, c'est un trio de multi-instrumentistes constitué de Pastel et Emmanuel Leblanc de l'île du Prince-Édouard et de Pascal Lemius des îles de la Madeleine. En puisant dans leur tradition, ces trois musiciens ont créé une signature musicale unique et qui leur est propre. Pastel Leblanc était aussi une compositrice prolifique et une artiste solo accomplie. La musicienne Christine Mélenchon du Nouveau-Brunswick avait beaucoup d'estime pour son ami Pastel. Elle est à Chéticamp au micro de notre reporter Daniel Aucoin.
Christine Mélenchon, bonjour.
Bonjour.
J'imagine bien que toi-même, en tant que musicienne, tu as été beaucoup touchée par l'annonce du décès.
Oui, parce que Pastel, c'était pas juste une collègue, c'est aussi une grande amie à moi. Pastel, c'était quelqu'un qui, en tant que musicienne, c'est sûr qu'elle a poussé un peu les limites de l'accordéon, du style traditionnel. Puis elle a mis vraiment sa propre touche sur le style. Puis comme amie, c'était quelqu'un qui était tellement bienveillant, tellement lumineuse. Elle avait toujours la bonne chose à dire quand ce que vraiment à l'écoute des autres.
Elle a été une source d'inspiration pour toi? Et...
Absolument, parce que Pastel, quand on parlait de musique, c'était juste m'encourager à ressentir la musique de différentes façons, puis de juste aller avec comment moi je me sens par rapport à la musique traditionnelle, parce que ça n'a pas besoin d'être ultra traditionnel de faire la musique la musique traîne, parce que comme c'est juste comment toi tu sens la musique, puis tu peux prendre des influences de partout, puis pour moi c'était comme une belle inspiration de juste être toi-même quand tu joues.
Vichten s'est fait connaître comme ambassadeur de la culture francophone dans le monde entier. Alors Pastel Leblanc et les deux autres membres du groupe puisaient dans leurs traditions et dans les chansons patrimoniales acadiennes. On peut dire que Pastel Leblanc a toujours comme ça rendu hommage à son héritage acadien?
Absolument. Puis les filles, puis Pascal aimait tellement l'île du Prince-Édouard, puis écouter l'acadienne, comme ça se voyait, ça se sentait. Pour eux, c'était vraiment important de représenter l'Acadie, de représenter qui eux, ils étaient, de représenter leur Acadie, puis leur vision de l'Acadie. Parce que pour eux, la musique traditionnelle, c'était pas quelque chose qui était comme figé dans le passé non plus. C'était quelque chose qui existait longtemps passé, qui existe encore aujourd'hui, puis qui peut être vraiment moderne par rapport à comme qu'est-ce qui se passe dans le monde. Ça peut être pop, ça peut être folk, ça peut être différentes choses. Puis c'était vraiment de transformer les mélodies qu'on connaît, puis d'en faire quelque chose de nouveau.
On sait que Vichten a donné des spectacles partout au Canada, en Europe, aux États-Unis. Pastel Leblanc, c'était un artiste qui a laissé sa marque, pas seulement en Acadie, mais partout à travers le monde.
En tant qu'accordéoniste, elle a eu le respect de tous les accordéonistes traditionnels partout dans le monde, à se mesurer avec eux, mais elle avait sa touche à elle, tu sais, parce que quand on entend Pastel jouer, on sait que c'est Pastel. Elle a son style, elle a sa voix, elle l'a trouvé, le petit X factor, quand ce qu'elle jouait, puis quand ce qu'elle, ou même quand ce qu'elle faisait des arrangements, on savait que c'était un arrangement de Pastel, parce que c'était, ça y ressemblait, c'était vif, c'était joyeux, c'était aussi profond. Il y avait toutes ces qualités-là dans la façon qu'elle jouait, dans la façon qu'elle faisait des arrangements, puis dans la façon qu'elle était comme personne. Fait que c'était vraiment quelqu'un qui était respecté à travers le monde, hein, dans toute la communauté celtique, puis aussi dans la communauté musicale en grand, là. Thank you.
La musique de Wittgenstein a certainement aidé à faire shiner la musique acadienne en général, parce qu'ils étaient un petit peu des ambassadeurs de l'Acadie. Puis, je suis certaine que ça fait en sorte qu'il y a plusieurs personnes qui ne savaient pas c'était quoi l'Acadie, puis ils ne savaient pas qu'il y avait des francophones dans l'Est du Canada. Puis juste avoir des ambassadeurs aussi positif puis aussi respectueux, respecté que Wittgenstein. Ça fait en sorte que l'Acadie a pu rayonner à plusieurs égards partout dans le monde, parce que c'était vraiment, en tout cas parmi les meilleurs pour nous représenter en tant que peuple. Puis Pastel était certainement à la hauteur de ça.
Vous savez que Pastel Leblanc et Wittgenstein ont joué au Cabreton à plusieurs reprises pour le festival Celtic Colors. Toi-même, tu es venu à Celtic Colors. Alors, je pense que le Cabreton avait une place spéciale dans le cœur de Pastel Leblanc.
Je crois que c'est à cause de Pastel que je suis venue à Celtic Colors longtemps passé, quand j'avais été pour la première fois. Pastel parlait du festival, elle parlait de l'ambiance, elle parlait du Cabreton, elle parlait de la réception des tunes du public, elle parlait de Festival Club, puis elle dit « Ah, oh, faut qu'il y aille, tu vas rencontrer plein de monde, tu vas voir de la musique, tu vas... » ça va être pas croyable, tu vas voir. Puis j'ai certainement jamé avec elle pas mal à Celtic Colors. J'ai certainement jasé avec elle. C'est vraiment, j'ai vécu ça comme avec Pastel, Emma puis Pascal. Plusieurs fois, je suis venue à Celtic Colors. Puis ouais, certainement que le festival puis le Cabreton avait une grande place dans le cœur de Pastel.
Christine, c'est quand la dernière fois que tu as vu ou tu as parlé à Pastel Leblanc?
J'y ai parlé cet hiver. Elle me parlait de comment est-ce qu'elle vivait son cancer. Puis jusqu'à la fin, elle avait vraiment encore... Ben, jusqu'à presque la fin, je dirais. Elle avait encore de l'espoir, puis elle voulait vivre. Elle voulait se battre, elle voulait continuer à être là pour nous autres, à vivre des choses, à faire de la musique, comme c'était vraiment son but. Puis il y a quelques semaines, on a perdu un de nos amis mutuels. Puis Pastel, elle a décidé qu'elle allait faire un petit hommage pour notre ami Henri. Puis elle avait fait un vidéo avec sa sœur Emma des tunes que notre ami Henri aimait. Puis tu sais, comme c'était vraiment ça pour elle, c'était le partage, puis le fait que la musique traditionnelle, c'est accessible à tout le monde, puis que ça se partage bien. Mais oui, Pastel était, elle a été elle-même jusqu'à la fin, puis elle a été généreuse, puis batailleuse jusqu'à la fin. Elle a trouvé de la valeur dans tout le monde, puis de la beauté dans tout le monde, puis c'est ça que je retiens vraiment comme de Pastel en général.
Christine Melançant, merci beaucoup pour ton témoignage.
Merci.
On a entendu trois pièces du groupe Wittgenstein, La Belle Gabrielle, Âme Sœur et ici, Horizon.
Bonjour, ici Julie Desalliers au Nouveau-Brunswick. Vous écoutez Point de vue
Suivez-nous sur Twitter @CanadaLJI, @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
Eh bien oui, c'est la voix de notre journaliste Judy Desalliers qui est en poste avec nous à Fredericton depuis plus d'un an maintenant. Judy qui va nous quitter bientôt, malheureusement pour nous. Elle qui va aussi faire de la peine au réseau des quatre radios avec lesquelles nous travaillons en Atlantique. Bonjour Judy.
Ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui.
On est bien content que tu sois restée avec nous tout ce temps. On sait que tu vas quitter bientôt, pas parce que tu nous aimes pas bien sûr,
mais parce que
tu as trouvé une chaussure à ton pied ailleurs. Qu'est-ce que ça t'a apporté de travailler pour l'initiative de journalisme local ces derniers mois?
Bon, ça fait seulement 4 ans que j'habite à Fredericton, donc je connais pas tout. Ça m'a appris à connaître un peu plus sur la scène politique, justement. La scène communautaire, les événements locaux, les personnes. Moi, j'aime ça, connaître les gens, connaître leurs histoires. Donc, c'est ça qui me passionne le plus en étant journaliste, c'est de pouvoir raconter et d'écouter les gens. C'est ce que j'aime le plus. C'est ce qui m'a fait découvrir, justement, la communauté avec eux.
Ma grand-mère m'avait dit un jour, j'étais très jeune et je commençais tout juste en journaliste. Elle a dit, qu'est-ce que tu fais, toi, dans la vie maintenant? Là? Genre, je dis, je suis journaliste. Elle dit, il faut aimer les gens pour être journaliste. J'ai pas osé lui dire non.
faut juste les comprendre, c'est ça.
Alors, tu as passé donc 4 ans au Nouveau-Brunswick. Tu te souviens de tes premières semaines, de tes premiers mois là-bas. Comment est-ce que ça s'est passé pour que d'arriver dans une nouvelle province canadienne? Tu avais fait toute ta vie au Québec, on suppose.
En fait, moi, j'aime ça explorer. Après avoir passé ma vie à Trois-Rivières, j'ai décidé d'aller toute seule en Ontario, à Ottawa, dans une ville majoritairement anglophone. Moi, je parlais presque pas l'anglais, mais j'ai appris à parler l'anglais, j'ai appris à me débrouiller toute seule, à être adulte comme ça. Mais quand je suis déménagée au Nouveau-Brunswick, j'ai découvert une province qui est gentille. C'est comme ça que je peux décrire le Nouveau-Brunswick. Les gens sont gentils, sont accueillants. Les Acadiens, la culture acadienne est incroyable et j'ai découvert de la nouvelle musique, des nouveaux gens, des nouveaux accents. C'est ce que j'aime le plus quand je découvre une nouvelle région, les accents. C'est ce qui me passionne le plus, étrangement, ouais.
Alors, comment c'est d'être francophone ou francophile au Nouveau-Brunswick, peut-être plus particulièrement à Fredericton où tu es?
Oh mon Dieu, ça, c'est une bonne question. Être francophone à Fredericton, c'est sûr que quand tu te rends dans les magasins à Fredericton, t'entends au moins une personne qui parle en français. Ça me fait plaisir d'entendre quelqu'un qui parle français pendant que je fais mon épicerie, par exemple. Ça me fait sentir plus chez moi, si je peux dire ça. Mais qu'est-ce que ça fait d'être francophone à Fredericton? Je me sens spéciale d'être là. Je me sens pas minoritaire, mais je me sens bien. Je me sens pas mal accueillie si je suis francophone. Je peux dire ça de même.
Quand on est francophone, on n'est pas étranger finalement à Fredericton.
Non, du tout. Moi, j'ai été bien accueillie de mon côté. Il y a plein d'associations francophones à Fredericton. J'ai été bien accueillie, surtout au Centre communautaire Sainte-Anne, c'est où est-ce que se trouve la radio CJPN.
Oui.
Il y a une grosse, grosse communauté des associations francophones qui peuvent vraiment te guider où est-ce que tu veux aller, il y a différentes activités aussi. Tu peux te trouver des amis. Donc, c'est très facile de se trouver une communauté francophone à Fredericton.
Oui, c'est clair que la communauté francophone est très active, très présente dans l'univers physique et médiatique du côté de chez toi. Si ce n'est que par les sujets que tu nous produis à chaque semaine, c'est clair qu'il y a de quoi se mettre sous la dent.
Quand j'essaie de trouver quelque chose d'un petit peu plus francophone, je me tourne justement vers les associations du Centre communautaire Sainte-Anne parce qu'il n'y en a pas juste deux ou trois, il y en a une dizaine, alors je suis bien gâtée là-dessus.
Oui, alors qu'est-ce qui t'attend maintenant, Judy? Est-ce que tu restes dans la province? Est-ce que tu vas ailleurs? Tu restes à Fredericton?
Oui, je reste à Fredericton. Je vais être agent des communications au sein du gouvernement du Nouveau-Brunswick. Je vais rester ici au Nouveau-Brunswick. J'ai trouvé ma maison ici.
Oui, vraiment?
Oui, oui. Je pense être là pour une bonne partie. Bonne partie de ma vie.
Le Québec te manque pas?
Non.
Oh, tu as le droit, hein, tu as le droit.
Ben, ma famille me manque, c'est certain. Ma famille, c'est la seule raison que je retourne au Québec. D'ailleurs, j'y étais en fin de semaine voir ma famille, mais ouais, ma famille, mes amis sont au Québec. C'est la seule chose qui me manque du Québec.
Alors, disons, faisons un peu de Québec bashing. Là. Qu'est-ce qui te manque pas du Québec?
Oh mon Dieu, on me met sur le spot. Attends, qu'est-ce qui me manque pas du Québec?
Ou pourquoi tu préfères? Aimes-tu tant le Nouveau-Brunswick?
Hey, j'y avais jamais vraiment pensé. Mais qu'est-ce qui me manque pas du Québec? C'est, ben, je veux tellement pas me mettre les Québécois à dos. La vie est plus relaxe au Nouveau-Brunswick. Je trouve que, ben, que comme j'ai dit tantôt, les gens sont plus gentils, mm-hmm. sont plus accueillants. Mais la vie est relaxe, on dirait plus relaxe qu'au Québec. Ça, je peux dire ça. Ouais, y a des bons vivants.
Ouais. Est-ce que la morphologie du paysage a quelque chose à y voir ou pas?
Je crois que oui. J'ai visité plusieurs régions au Nouveau-Brunswick. Pas toutes encore, pas toutes les régions. Mais j'apprécie particulièrement la région de Fundy. C'était ensoleillé et c'est bien plus beau quand il y a du soleil. Tu vois les couleurs. Ah, c'est magnifique.
Là où il y a des plus hautes marées?
Oui, effectivement, c'est là. C'est il y a Hopewell Rocks, que ça s'appelle, des roches qui sont formées par les marées. C'est magnifique. Je vous conseille ça.
Ah ben, écoute, merci du conseil, Judy. Ça a été un plaisir de te parler aujourd'hui. Ça a été notre première rencontre, en fait, notre première rencontre radiophonique. Tout le meilleur pour la suite de ton parcours professionnel.
Merci beaucoup. À bientôt.
Eh bien voilà, c'est tout pour nous à Point de vue. On vous invite à consulter notre site web où vous pouvez lire et écouter tous les reportages produits par des dizaines de journalistes postés à travers le Canada. Rendez-vous donc sur canada-info.ca, canada-info.ca. Vous le savez, on est aussi branché sur Twitter, @CanadaLJI, CanadaLJI. Puis écoutez toutes nos émissions sur vos plateformes préférées, aussi sur notre site web. On remercie nos journalistes Daniel Aucoin, Pénélope Clermont et Judy Desalliers, et bien sûr leurs invités. Merci aux artistes qui nous offrent leur musique et à notre coordonnateur national Stéphane Bénard. On vous rappelle que cette émission est une production du Fonds canadien de la radio communautaire à Ottawa. Ici Boris Chassagne à l'animation et à la réalisation. Revenez-nous la semaine prochaine. À bientôt.
Suivez-nous sur Twitter @CanadaLJI @CanadaLJI.